de nombreux voyages vers Jérusalem. Pierre l'ermite ouvre la voie aux barons vers Jérusalem en passant par Constantinople que beaucoup ne dépasseront pas. 1096-1099, Pierre l'ermite et sa bande. Pierre l'ermite. On le considère déjà comme un saint quand il commence à prêcher dans les campagnes pour appeler les petites gens à s'engager pour la croisade. On arrache les poils de son âne pour en faire des reliques. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de saint Pierre l'ermite. Pourquoi ? Lisez d'abord comment est né le projet de reconquête du tombeau du Christ à Jérusalem. Comment le pape Urbain II a demandé des volontaires pour cette entreprise. Embarquez pour l'aventure. À Clermont est lancé le grand appel qui va mettre en mouvement une grande partie de l'Europe du Nord vers le tombeau du Christ tombé aux mains des infidèles. Objectif idéal pour tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui se sentent à l'étroit dans leur terre ou dans leur pays. Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II, Eudes de Châtillon, d'origine française, vient de clore le concile qu'il a ouvert le 18 novembre à Clermont, en Auvergne, la ville aux 54 églises. On a beaucoup parlé, au cours de ce concile, des lieux saints de Jérusalem. Ces lieux saints, où se trouve le tombeau du Christ, sont occupés par les infidèles, les musulmans. En effet, tout a commencé en 1055 avec l'arrivée des Turcs. Le chef de la tribu des Seldjoucides, Togrul Beg, s'empare de Bagdad, puis vint l'empereur byzantin romain Diogène en Arménie. Fait prisonnier, l'empereur est libéré, mais auparavant, on lui crève les yeux. Plus d'empereurs à Byzance pour les contrarier, les Turcs foncent sur Jérusalem, qu'ils prennent aux Arabes en 1078, puis ils s'emparent d'Antioche, qui appartenait aux Byzantins. La situation est grave. Le tombeau du Christ est devenu la propriété des musulmans. Il faut aller le délivrer. Il faut aussi donner à une population française en forte progression. Elle passe de 5 millions en l'an 1000 à 10 millions en 1200. Des horizons nouveaux. Faire prendre l'air aux jeunes nobles turbulents et tenter d'ouvrir des voies commerciales avec cet Orient tout proche et qu'on connaît si mal. Deus lo volt est la réponse au discours enflammé du pape Urbain II qui demande aux volontaires de se désigner pour l'expédition de Dieu. L'évêque Adhémar de Monteil est le premier. Aussitôt, il coud une croix rouge sur son vêtement. Dans les jours qui suivent, ce sont des milliers d'hommes qui cousent la croix, c'est-à-dire qui répondent à l'appel du pape et se préparent à partir pour Jérusalem sous le contrôle des seigneurs. L'expédition est minutieusement préparée par les barons qui se réunissent à Paris. Quatre armées distinctes sont formées qui vont se diriger vers la Terre Sainte.
Guillaume le Conquérant, fils de Robert et d'Arlette. 14 octobre 1066. Une troupe de chevaliers débarque en Angleterre. Ils sont bretons, flamands, français. Mais les plus nombreux sont les Normands. Ils ont à leur tête Guillaume le Bâtard. Pourquoi le Bâtard ? Parce que son père, Robert, duc de Normandie et descendant de Roland, a eu ce fils avec la fille d'un tanneur de falaise, Arlette, en dehors de son mariage. Les 7000 guerriers s'en vont combattre à Hastings, Harold, qui a pris la couronne anglaise alors qu'elle avait été promise à Guillaume par Édouard le Confesseur, son oncle, qui vient de mourir. Harold s'est tranquillement installé sur la hauteur de Senhack, près de Hastings. Guillaume lance ses premiers assauts, inefficaces. Il décide de s'engager dans la bataille. Mais une lance transperce son cheval et on le croit mort. Les Anglais rompent alors leur rang pour poursuivre les Normands saisis par un début de panique. À ce moment, Guillaume, qui est bien vivant, relève la visière de son casque et on le reconnaît. Tous ses soldats se rassemblent. Guillaume lui-même atteint le poste de commandement d'Harold, qui se meurt, ayant reçu une flèche normande dans l'œil. C'est la déroute des Anglais, la victoire de Guillaume. Et à ce moment, l'adjectif « bâtard » laisse la place au triomphant « conquérant », dont Guillaume lui-même n'a jamais voulu, se considérant comme un héritier légitime et non comme un envahisseur ou un usurpateur. Il régna sur une Angleterre d'1 million d'habitants, emportant avec lui la langue, presque, française, qui a donné naissance à la langue anglaise contemporaine.
Après l'appel d'Urbain II en 1095, un ancien soldat devenu moine, né en 1050 à Amiens et qui prétend que le Christ lui est apparu lors d'un voyage à Jérusalem, décide de sillonner les campagnes, de s'arrêter pour prêcher dans les petites villes, les villages. Il veut recruter une armée de croisés issus du peuple, une armée de gens simples. Il est monté sur un âne, marche pieds nus. Son nom ? Pierre l'Ermite. On l'écoute, il parle avec passion, avec fougue. Il faut aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. La description qu'il fait de cette ville enflamme les imaginations et de braves gens vendent tout ce qu'ils ont pour suivre celui qui possède parfaitement l'art de la persuasion, mais pas grand-chose de plus. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, mais aussi de malades, d'infirmes et d'impotents le suivent. Le 12 avril 1096, il arrive à Cologne, où le départ pour cette croisade des pauvres gens est fixé. Ils sont près de 100 000. Que faire ? La foule s'impatiente des réticences des autorités à les laisser partir. Elle part même toute seule, malgré les conseils de Pierre l'Ermite, qui voudrait bien leur faire faire le chemin inverse et s'en débarrasser. Trop tard. Au bout de 2 jours apparaît une grande ville. Beaucoup croient qu'ils sont déjà arrivés à Jérusalem. Pour continuer, il faut se nourrir. Cette bande va vivre de vols, de crimes, de rapines, tuant notamment les Juifs pour les voler, tout en prétendant venger la mort du Christ. En août, cette triste équipée arrive à Constantinople. L'empereur byzantin Alexis, effrayé du nombre, envoie un peu plus loin cette troupe dont quelques centaines d'éléments s'emparent d'un château. Mais, assiégés à leur tour par les Turcs, les chrétiens ont besoin de renforts. Pierre l'Ermite va en demander à Constantinople. Pendant son absence, son compagnon, Gautier sans avoir, décide d'entraîner les croisés vers Nicée. Les Turcs leur tendent un piège et les massacrent tous. Des milliers de cadavres de gens simples et trop naïfs jonchent le sol de cette terre étrangère où le rêve est devenu cauchemar. Pendant des dizaines d'années, leurs ossements formeront, racontent les témoins, comme une petite montagne.